France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Zaya Ziwani, je suis née le 27 juin 1978 à Paris et je suis chef d'orchestre.
À la fin des années 90, Zaya Ziwani est nommée chef des orchestres de Stein et de l'orchestre Divertimento, alors ancré au Conservatoire du 9e arrondissement à Paris. Sa carrière est lancée.
Cette expérience au 9e arrondissement, elle a été très riche. À Stein aussi, elle a été très riche. Et je commençais à avoir des invitations par certains festivals pour aller diriger. Et souvent, on me proposait d'y aller, mais en venant avec mon orchestre. Sauf que moi, je n'avais pas d'orchestre. Alors certes, je travaillais dans des conservatoires, mais je n'avais pas d'orchestre. Et voilà, l'idée a commencé à germer. Et à la fois, je me sentais bien dans ces conservatoires-là, mais je ne me sentais pas complètement libre de faire les choix que j'avais envie, de répertoire, de projet. Et donc, j'ai commencé à avoir cette idée de me dire, tiens, il faudrait que je sois un peu plus autonome, et cette idée de créer cet orchestre, puisque je voyais aussi, dans le paysage musical, les femmes créer leurs propres orchestres aussi. Et dans cette expérience que j'avais, je voyais des jeunes musiciens à Stein, talentueux, mais avec leur vie, dans une ville, qui est celle de Stein, avec les réalités que l'on connaît de la Seine-Saint-Denis, peut-être parfois encore plus compliquées que Pantin, là où j'ai grandi. Et du coup, je me disais, tiens, je voyais ces jeunes à Paris, dans le 9e arrondissement, pas forcément beaucoup sortir de leur arrondissement, ce destin ne pas sortir non plus de leur ville, et en même temps, tous avoir la même passion pour la musique, et je trouvais que ça méritait qu'ils puissent se rencontrer. Et je me suis dit, tiens, l'orchestre, ça pourrait être un lieu de rencontre, au sens large du terme, rencontre entre des œuvres, entre des cultures, entre des personnes, faire se rencontrer des artistes entre eux, faire se rencontrer des publics entre eux. Et je me suis dit, Zaya, si tu restes uniquement professeur d'orchestre dans les conservatoires, tu vas apprendre des choses, mais c'est pas ça qui va te permettre de pouvoir justement peut-être plus bouger les lignes, mener tes propres projets. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer l'orchestre. L'orchestre Divertimento, il s'avère qu'à cette époque, le directeur du conservatoire au 9e avait changé. Lui, il n'avait plus envie d'appeler les orchestres par des noms de formes musicales. Et donc, moi, ça m'arrangeait parce que ce mot Divertimento, je l'aimais bien. Je trouvais que le fait d'incarner aussi un mot italien, d'une forme qui est assez libre, assez dynamique aussi, je trouvais que ça nous correspondait bien. Donc ça m'a permis de pouvoir récupérer ce nom, Divertimento, et de créer cet orchestre en faisant des concerts à la fois à Paris, à la fois en Seine-Saint-Denis. Et puis jusqu'au moment où, en effet, quand on décide de construire un projet d'orchestre, c'est bien sur le papier, mais ça veut dire qu'il faut s'occuper de plein de paramètres. Hein, donc à la fois de choisir les œuvres, de trouver les partitions, de les acheter. J'ai aussi même conduit les camions, transporter les timbales, les porter, monter les pupitres, faire les premières fiches de paye. Enfin voilà, je crois que d'un orchestre, je suis passée par tous les stades et de parce que s'occuper d'un orchestre, il y a beaucoup de paramètres. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai voulu faire en sorte que cet orchestre puisse aller un peu plus loin, et j'ai été nommée à la tête du conservatoire de la ville de Stein. Et c'est vrai que je ne me voyais pas forcément directrice de conservatoire, en tout cas pas tout de suite.
Vous êtes très jeune à l'époque.
À l'époque, ouais, j'avais 24 ans en effet, ouais.
Voilà. Ah, vous n'avez pas perdu de temps quand même.
Non, c'est vrai. Et c'est vrai que le projet que j'ai proposé pour pouvoir développer ce conservatoire, c'était vraiment autour de la pratique d'orchestre. Et le maire a trouvé ça très bien. Il m'a dit, mais écoutez Zaya, vous voulez développer les pratiques d'orchestre, vous voulez aussi développer des concerts pour que les habitants de Stein puissent aller au concert aussi, avoir accès à la musique. Mais ça serait bien qu'en fait, ils puissent écouter un orchestre, puisque c'est le projet que vous voulez faire partager aux jeunes stanois. Comme il a vu que je m'occupais d'un orchestre, il m'a proposé de permettre à Divertimento d'établir sa résidence. Pour moi, ça avait du sens parce que ma rencontre avec la musique, elle s'est faite quelque part en Seine-Saint-Denis, ou en tout cas, elle s'est beaucoup développée en Seine-Saint-Denis. Et donc, je trouvais ça bien et j'avais toujours un peu ce ressenti de me dire, tiens, mes parents nous emmenaient toujours voir les concerts à Paris. Et c'est chouette, hein, c'est des beaux les concerts, mais moi je voulais qu'il y en ait aussi dans ma ville, dans mon département. Et donc quelque part c'était aussi une façon de m'engager un petit peu dans cette voie-là, de rendre accessible la musique et donc d'apporter cet orchestre à Stein. Et comme j'avais vraiment envie d'être fidèle à ce discours de cette excellence qui devait être accessible à tout le monde, j'ai souhaité en fait plutôt organiser ce projet d'orchestre avec vraiment deux dimensions que j'avais envie de détacher et distinguer. Celle des concerts et donc d'en faire un orchestre professionnel à proprement parler.
Ça, c'est le premier volet.
Voilà, le premier volet. Et le deuxième que j'avais envie de continuer à faire exister, qui était justement de faire se rencontrer des jeunes talents de la musique avec des musiciens professionnels et d'avoir cette notion de tutorat, d'accompagnement, de moments de partage ensemble que j'ai continué à faire exister sur un moment dans l'année. Et ce qui a donné naissance ensuite à notre académie, l'Académie Divertimento, qui aujourd'hui regroupe plein de projets différents et plein de jeunes qui pratiquent la musique et qui viennent justement partager cette passion que nous avons de l'orchestre et de la musique.
Vous arrivez donc à Stein où vous êtes en effet toute jeune, il y a ce désir de faire partager et de faire, comme vous l'avez dit déjà plusieurs fois, bouger les lignes. Ça, c'est vraiment aussi l'envie de rendre ce que vous avez reçu ou de rendre peut-être encore plus possible pour d'autres les choses que vous, quand vous étiez enfant, qui étiez obligé d'aller à Paris pour aller au concert et c'était pas à votre porte. Vous avez eu ce désir aussi là, j'allais dire un engagement qui est aussi très politique.
Bah déjà, je pense que moi, je me suis rendu compte que ce chemin, cette rencontre avec la musique a été possible pour moi dans le cadre familial et que quelque part c'était quelque chose d'assez rare. Et que dans des territoires comme la Seine-Saint-Denis, des départements où il y a beaucoup quand même de diversité sociale, culturelle, avec des familles voilà, qui ont des parcours différents, des parfois aussi certaines fragilités, que c'était pas forcément, ça serait peut-être encore moins évident pour beaucoup d'enfants d'avoir cette rencontre avec la musique, avec la culture dans le cadre familial, que malheureusement c'est pas toujours à l'école que ça peut se produire. Et donc je me suis dit, bah voilà, nous les artistes, on a aussi une responsabilité. Et je me suis dit, mais moi quand je serai chef d'orchestre, je vais montrer que les symphonies de Beethoven, elles sont pas moins belles si elles sont jouées à Stein, et que celui qui habite à Stein et ou dans son quartier à 19h, il y a plus de bus, qu'est-ce qu'on peut lui permettre, qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour qu'il puisse avoir quand même accès à cette belle musique. Et puis parce que aussi même si parfois le mot travail, de temps en temps, on tourne un peu autour du pot. Alors, on se dit qu'aujourd'hui, il faut trouver des méthodes pédagogiques alternatives, donner envie aux enfants d'apprendre, mais de façon plus ludique. Alors, moi, j'ai rien contre ça, mais à un moment donné, il faut juste pas mentir aux enfants, il faut pas mentir aux jeunes, il faut pas mentir aux gens. Il n'y a pas de secret dans la vie, il faut travailler, c'est tout. Et il n'y a qu'en travaillant qu'on a des résultats. Et en fait, c'est ça que moi, je me suis dit, c'est que pour avoir des résultats, il faut travailler. Pour se faire plaisir dans la vie, il faut progresser. Pour progresser, il faut travailler. Et donc, cette notion de plaisir et de travail, moi, je me suis dit, la musique, c'est aussi une belle école de la vie pour arriver aussi à rencontrer ces valeurs-là, arriver à les transmettre aussi.
Thank you.
toute cette période-là, vous avez aussi éprouvé quand même des choses qui étaient pas si faciles, je crois, c'est-à-dire Zaya Ziwani, d'avoir des gens qui trouvent que l'initiative est absolument formidable, mais c'est pas parce qu'on vous félicite beaucoup qu'on vous donne des subventions, tout ça ne va pas forcément ensemble.
Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, on parlait, vous disiez bouger les lignes, c'est à tous les niveaux, en effet. Alors, bouger les lignes dans les idées, c'est une chose. Après, d'arriver à rendre concret d'autres aspects, notamment les aspects sonnants et trébuchants, c'est encore une autre histoire. Et c'est vrai que là où je me suis heurtée, c'est que parfois, dans les discours politiques, qui pourrait prétendre ouvertement dire qu'il est contre que tous les enfants et que tout le monde puisse avoir accès à la culture en soi et donc, développer une saison de concert à Stein, à chaque fois, on me disait, Stein, c'est un quartier politique de la ville, donc ça relève de la politique de la ville. Parce que naturellement, c'était comme ça. Et je disais, mais attendez, là, je ne vous parle pas d'un travail social ou d'un travail pédagogique, je vous parle de faire un concert de musique classique à Stein, donc avec des musiciens professionnels, donc qui sont les mêmes. Voilà, qui vont jouer le même poème symphonique de Saint-Saëns à Stein, avec les mêmes partitions, habillés de la même façon, et deux jours après, le jouer à la Philharmonie de Paris, et il n'y a pas de différence, en fait. Donc, pourquoi on va considérer les gens différemment? Puis, il faut savoir qu'à Paris, particulièrement, cette barrière du périphérique, elle n'est pas que physique, en fait. C'est aussi des barrières où c'est parfois difficile aussi de faire venir les médias ou parfois de faire venir aussi des programmateurs, des responsables institutionnels. Donc, vous avez beau expliquer ce que vous faites tant que vous ne voyez pas. Et ça, c'est bien un enseignement que je tire de toute cette expérience-là. Tant que vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Et parfois, ça m'est arrivé d'accueillir des ministres, des responsables institutionnels, des programmateurs à des concerts qu'on faisait à Paris, qui pensaient que, même on a été joué à l'Élysée il y a 2 ans, devant le président Macron, il me disait, Zaya, je m'attendais pas à ça, mais je lui dis, à un moment donné, mais vous attendiez à quoi? Parce que tellement, on pense qu'en banlieue, c'est forcément, c'est des jeunes amateurs. C'est pas possible, en fait, de s'imaginer que cette excellence-là qu'on voit à l'Opéra de Paris, c'est exactement la même excellence qu'on peut défendre dans un territoire comme celui-là. Et donc maintenant, ça commence à être un petit peu plus dans les discours des politiques publiques, mais tant qu'on le voit pas, on le sait pas. Et la rencontre avec les œuvres, pour moi, ça reste primordial. C'est comme ça qu'on fait rêver les gens. Vous mettez des personnes qui n'ont jamais entendu une musique classique devant un orchestre symphonique. Enfin, ça laisse pas indifférent. C'est de telles émotions, et puis comme disent les jeunes, ça envoie les watts. Donc voilà, c'est une telle énergie que, personne n'est insensible à ça. Tout le monde a envie de voir ses enfants réussir, tout le monde a envie de vivre des beaux moments d'émotion par la musique. Moi, je suis une grande artiste et j'estime que les publics dans ces territoires-là ont le droit d'avoir aussi les meilleurs artistes sur leur territoire. Et c'est vrai que je suis toujours restée fidèle à cette ligne-là. Et je remercie beaucoup d'artistes qui ont été toujours, ma sœur Fetouma, beaucoup de musiciens de l'Orchestre Divertimento, des solistes, les membres du trio Vandérer, Jean-Marc Philips, Raphaël Pidou, qui ont été parmi les premiers grands solistes internationaux à venir jouer à Stein et à défendre aussi ces sujets-là à nos côtés, et d'autres comme Chani Liluka, pianiste, qui sont aussi par ailleurs des amis et qui sont aussi convaincus de ça et qui ont relevé aussi ces projets avec nous. Donc voilà, donc c'est vrai que mon parcours personnel et cet engagement en Seine-Saint-Denis m'a petit à petit conforté dans quel chef d'orchestre j'avais envie d'être. Et c'est vrai que quand on commence à 20 ans, on s'imagine peut-être faire 4 fois le tour du monde tous les ans, diriger la Philharmonie de New York, de Berlin, de Tokyo. Et j'ai eu des très belles expériences et j'en ai encore aujourd'hui avec beaucoup d'orchestres nationaux et internationaux. Mais je sais que moi, ma vie de chef d'orchestre, j'ai pas envie de la vivre que comme ça. Mais j'ai aussi envie de la vivre dans un engagement qui a du sens et de se dire que peut-être... À la fin de ma carrière, j'aurais peut-être pas réglé tous les problèmes, mais j'aurais contribué en tout cas à faire avancer une certaine réflexion sur justement cette égalité d'accès à la culture et sur la place des femmes dans la musique aussi. ويسمع ذا تولي نقر الذيما ذا نيغيك الخسمة يقوش لن وساري نغث نوصمي ذا نوي ذا سينا لفرق الصدى لا يترو وان كان النيد قيثة تصغيبي ذا
France Musique, les grands entretiens de Zaya Ziwani.
On sent que la place des femmes, c'est quelque chose de très important et vous formez des musiciens et des musiciennes. Vous avez à cœur, Zaya Ziwani, d'inspirer aussi des vocations et de faire que les femmes, et notamment dans ce métier de chef d'orchestre, s'y sentent davantage invitées. Vous diriez que vous avez souffert, vous, beaucoup du machisme, par exemple, que vous évoquiez comme ça un tout petit peu tout à l'heure?
Ah oui, bien sûr, j'en ai souffert. En fait, ce qui m'a... C'est pas que ce soit difficile qui m'a dérangé, parce que quelque part, bon, voilà, c'est la musique, c'est comme le sport de haut niveau, hein. Il y a qu'une personne qui gagne la médaille olympique. Bon, bah nous, voilà, ça reste aussi des places qui sont difficiles à gagner. Voilà, être au haut niveau, c'est difficile. Donc c'est pas le fait que ça soit difficile qui me dérange, c'est le fait de voir que, voilà, quand j'étais jeune, on m'a dit, bah non, c'est pas fait pour les femmes. Il y a pas encore si longtemps que ça, j'entendais parfois dans certaines réunions. Dans des institutions au niveau de l'État, on me disait « Oui, mais Zaya, vous comprenez, on n'est quand même pas encore prêt à avoir les femmes diriger les orchestres nationaux en France. » Et c'est ça qui me dérange, en fait. Et on est au 21e siècle, et parfois, si une jeune fille vient me voir et me dit « Zaya, je vais être chef d'orchestre, et quand je serai grand, je serai chef d'orchestre », j'ai envie de l'encourager, bien sûr, parce que j'ai détesté qu'on me décourage. Et en même temps, je me dis « Quelle réponse je peux lui donner aujourd'hui Est-ce que si tu es capable de lever plusieurs millions d'euros par an, oui, tu seras chef d'orchestre ?» Je trouve que ce n'est pas une réponse qu'on doit apporter à des jeunes filles au XXIe siècle, et dans la musique comme dans plein d'autres domaines. Donc oui, forcément, je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est un milieu qui est assez inégalitaire et qui n'offre pas toujours encore les mêmes perspectives. Et il n'y a qu'à regarder les études qui sont faites par divers organismes pour voir qu'à la tête des maisons d'opéra, des orchestres nationaux, en tant que chef d'orchestre, metteur en scène, même le nombre de solistes invités, de parité même dans les orchestres symphoniques, il y a encore un chemin énorme à faire.
Pas du tout parler de la place de la religion. Est-ce qu'il y a une place pour la religion dans votre famille, votre famille, j'allais dire, de vous, enfant, oui, avec vos parents, et votre famille aujourd'hui?
Oui, alors après, bien sûr, on a nos propres croyances, en effet, les traditions dans lesquelles on a grandi. Donc oui, en effet, moi, je suis croyante. Hein. Après, c'est vrai que c'est une croyance qui reste assez personnelle, assez pudique, et c'est vrai que même sur certaines fêtes religieuses musulmanes, hein, puisque moi je crois en l'islam, c'est vrai que ça m'empêche pas de les fêter, mais ça va pas m'empêcher non plus de pas continuer à avoir ma vie sociale ou ma vie professionnelle, donc je vais garder ça pour moi, donc je vais fêter ça en famille le soir, mais je vais pas m'empêcher de travailler. Donc c'est vrai que ça reste quelque chose de très pudique, et parfois, alors on m'a souvent, c'est vrai que c'est pas commun, peut-être, de voir des chefs d'orchestre de cette confession-là qui... Donc voilà, après, ça m'empêche pas aussi parfois de pendant la période du Ramadan, bah oui, je fais le Ramadan, et puis parfois, quand j'ai des journées avec des gros concerts, bah voilà, je préfère me concentrer et être pleinement en possession de mes moyens, et puis après, je rattrape mes journées à d'autres moments. En fait, pour moi, c'est plus une philosophie de vie et des valeurs pendant ce mois de Ramadan auquel on croit et auquel je suis fidèle toute l'année. Voilà, je suis aussi en temps... philosophiquement que spirituellement, voilà, j'ai l'impression d'être en phase avec toutes ces idées, toutes ces valeurs-là. Mais oui, ça laisse une place à la religion. Après, voilà, je laisse pas la religion prendre plus de place qu'elle doit en avoir, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est quelque chose que je suis assez pudique aussi dans la vie, que j'ai envie de garder pour moi. Et c'est vrai que ça a parfois suscité des curiosités, même de certains de vos confrères qui parfois me posaient beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, et des fois, j'ai été amenée à leur dire, mais vous savez, si vous posez pas la question de sa pratique religieuse à Pierre Boulez, il n'y a pas de raison de me poser la question à moi, en fait. Donc, même si je peux comprendre que ça peut susciter une certaine curiosité. Donc, d'être femme et d'être chef d'orchestre en France et me nourrir de ma double culture, ça m'empêche pas, en effet, d'avoir aussi mes propres croyances que je porte et que je vis, mais de façon plutôt assez personnelle et pudique. Thank you.
Quand vous avez eu cette expérience d'être premier chef invité à l'Orchestre national d'Alger, ça a commencé en 2007, où Alger était capitale
de la culture arabe,
exactement. Je crois que ça a été aussi l'occasion, Zaya Ziwani, avec Divertimento aussi, de penser le concert autrement.
Et exactement, tout à fait. Ça a été, pour moi, ça a été en effet très instructif aussi, cette expérience. Parce qu'au départ, j'allais pour diriger, du Beethoven, du Haydn, des œuvres de grand répertoire. Et donc, on m'a invité pour ça. Et c'est vrai que pour la préparation de ce premier concert que j'ai eu avec l'Orchestre National d'Algérie, on m'a dit, tiens, tous les concerts ont fait en effet une œuvre d'une musique classique algérienne, arabe ou d'un compositeur algérien. Un répertoire que je connaissais pas du tout, en fait. Et donc, j'ai commencé à découvrir un peu ces musiques, parfois plus d'inspiration traditionnelle d'Afrique du Nord. Et puis, avec des instruments traditionnels. Donc, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre la première fois d'enchaîner une symphonie de Haydn avec musique avec de la derbouka. Mais quelque part, je me suis dit que, pourquoi? Enfin, là-bas, il faisait pas de différence. C'est que c'était un public qui était un peu vierge de tout code, de toute convention. Et donc, pour eux, d'écouter de la musique classique européenne, de la musique classique algérienne à un même concert, il n'y avait pas de sujet. Que la vie, elle était simple, en fait. C'est vrai que j'ai commencé un petit peu à réfléchir à voir comment on pouvait aussi créer ce lien et cette unité dans les programmes musicaux. Et c'est vrai que Saint-Saëns, un compositeur que j'ai toujours beaucoup apprécié, et j'ai été visiter l'immeuble dans lequel il a vécu, dans lequel il est mort, à toute proximité de l'opéra dans lequel il a beaucoup aussi travaillé. Donc,
peut-être dire aux auditeurs, Saint-Saëns, dont on va célébrer d'ailleurs dans quelques jours, le centenaire de la mort, qui a fait 19 séjours en Algérie. Donc, qui a vraiment un rapport très intime avec ce pays, et dans sa musique, c'est quelque chose qu'on entend.
Aussi, c'est vrai, et un pays qui l'a beaucoup inspiré en effet dans ses musiques, et je crois que c'est un compositeur qui a beaucoup voyagé aussi, et donc, c'est vrai que l'Algérie, c'est peut-être le pays pour lequel il a eu aussi peut-être une attirance encore plus forte et une attache plus grande, mais il a beaucoup voyagé en Espagne, en Italie, en Égypte, et donc c'est aussi le fruit de tous ces voyages qui l'ont amené à avoir des nouvelles idées musicales, et donc l'Algérie particulièrement. Donc je me suis dit, cette rencontre qu'on est en train de créer humainement entre des musiciens d'Algérie et de France, ça serait bien d'incarner aussi dans des œuvres qui incarnent aussi cette rencontre. Et donc, je me suis rendu compte qu'avec les œuvres de Saint-Saëns, c'était une des façons de pouvoir l'illustrer avec ses œuvres qu'il a écrites quand il est en Algérie, en s'inspirant de la musique algérienne ou parfois des sensations ou de ces rencontres là-bas en Algérie. Et puis, et c'est comme ça que j'ai commencé à créer un peu des programmes qui permettent à la fois de partir de ces répertoires-là, d'amener les auditeurs à entendre les musiques traditionnelles que Saint-Saëns a entendues en Algérie et qui l'ont inspiré. Et après, quelque part, de finir un peu ce voyage musical avec des compositeurs d'aujourd'hui et de voir comment, dans la création contemporaine aujourd'hui, on peut aussi créer ces rencontres. Et donc, pour moi, c'était une façon peut-être plus personnelle, plus évidente, en tout cas pour moi, de faire se bouger les lignes et de faire en sorte que montrer que la musique symphonique, même si elle a forcément une force très européenne, une histoire très européenne, qu'aujourd'hui, il y avait aussi d'autres pays, d'autres cultures qui, quelque part, font partie aussi de cette histoire. Et aujourd'hui, des orchestres symphoniques, il y en a partout sur la planète, avec aussi des compositeurs d'aujourd'hui qui s'expriment avec le langage de l'orchestre, mais tout en, en manifestant également leur attache à leurs racines, que ce soit en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique. Et donc, et moi, j'aime bien aussi cette notion de faire découvrir le monde par la musique.
Et c'est avec cette danse bacchanale de Camille Saint-Saëns par Zaya Ziwani à la tête de son orchestre Divertimento que se referme cette série des grands entretiens avec Zaya Ziwani. Équipe de réalisation Lionel Quentin, Yves Lehors, Philippe Thibault et Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.